Pour introduire notre dernier moment, je vous proposerai le chant du cantique 6. À Dieu soit la gloire, par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre, écoute sa voix. Gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. De Jésus, la joie remplit notre cœur et nous espérons qu'il en est bien ainsi. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, hein, c'est dans la ligne de ce que nous avons vu ce matin. C'est la journée que l'Éternel a faite, la journée qu'il a sanctifiée, et ça doit être une journée de joie. Une journée non pas de larmes et de tristesse, de culpabilisation, mais une journée de déculpabilisation. Une journée de libération. Parce que Jésus est venu pour régler la question de nos péchés et nous n'allons pas avoir toujours notre nez sur nos péchés. Nous les confessons et puis nous nous réjouissons en levant les yeux sur notre grand libérateur. C'est en lui que vous êtes vu cet après-midi par Dieu trois fois saint. Il vous voit dans les perfections de son Fils. Alors, ne méprisez pas l'œuvre de la croix. Elle est parfaite. Dieu a payé le prix en donnant son Fils, et son Fils a payé le prix en donnant sa vie. Laissez le doute dans votre cœur, c'est offenser Dieu. Alors, soyons dans la joie. Aujourd'hui, pour son grand amour, et que cette date du 27 novembre 1988 marque dans chacune de nos vies et renouvelle notre témoignage. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Nous allons vers la joie. Nous allons vers Jésus. Ô venez, ô Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur et toute la gloire nous la donnons à notre Dieu. Alors, levons-nous pour chanter ce cantique.
Thank you. Eh bien, mes amis, il y a une ou deux questions qu'on a posées et sur lesquelles nous voudrions donner peut-être encore une réponse. On demande au sujet des offrandes et des dîmes. C'est une chose qui nous a peut-être frappé dans le livre de Néhémie. Ils se sont engagés à donner des dîmes et des offrandes. Et on demande comment doit-on interpréter ces choses aujourd'hui face aux dîmes et aux offrandes. Est-ce une loi rigide ou bien une libéralité laissée à chacun? C'est évident que nous devons avoir affaire dans les offrandes que nous apportons au Seigneur, nous devons avoir affaire avec Dieu. Tout doit être pensé. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons donc l'enseignement de la dîme. Et je pense que puisque c'est Dieu qui a donné cette indication dans l'économie de la loi, nous avons un enseignement à retenir. C'est en tout cas une indication pour nous quand on se pose la question: quelle part devons-nous faire au Seigneur de nos biens? Eh bien, je pense que si nous aimons le Seigneur, il peut nous donner une indication. Mais je ne voudrais pas que l'on pense, ben voilà, nous donnons la dîme et nous sommes en règle, parce qu'on peut donner la dîme et ne pas être en règle avec le Seigneur. Nous avons à voir personnellement ces choses devant lui et à recevoir une conviction. Je pense qu'il y a des jours où peut-être le Seigneur nous demande plus que la dîme. Et puis d'autres temps où peut-être nous ne sommes pas appelés à donner la dîme si nous n'avons rien. On ne va pas donner la dîme de ce que nous n'avons pas. On donne la dîme de ce que nous avons. Mais si vous n'avez rien, vous n'allez pas emprunter pour pouvoir donner la dîme. C'est ce que dans bien des milieux, on vous dit maintenant: emprunter pour donner. Et ça, c'est très grave. Nous devons avoir affaire avec le Seigneur. Mais nos offrandes doivent être pensées. Nous ne devons pas venir dans un culte où nous comprenons que nous avons une offrande à faire au Seigneur sans y avoir pensé. Nous avons là des indications dans le Nouveau Testament et en particulier dans le chapitre 16 des Corinthiens. Je ne vais pas m'allonger là-dessus. Chacun de nous doit avoir affaire avec le Seigneur. Mais je souligne que la dîme est une indication pour nous au sujet de nos offrandes. Au chapitre 16 de la première épître aux Corinthiens, nous lisons: pour la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens. Vous voyez que là, il n'est pas précisé que c'est la dixième partie, mais selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire des collectes. ce n'est pas quelque chose qui se fait au dernier moment. Et on a vu bien souvent qu'au moment de l'offrande, les gens sont tout à fait désorientés, on entend des bruits de sacoches qui s'ouvrent et qui se ferment, c'est pas pour critiquer nos sœurs. Et puis, eh bien, les hommes s'arrangent peut-être autrement, mais enfin, ça devrait être quelque chose de préparé, pour qu'on n'ait pas simplement un geste à faire, hein, ou à arracher un bouton pour le mettre. Enfin, oui, mais il y en a qui ont fait ça. Et il y en a qui ont cru qu'il fallait prendre, n'est-ce pas, quand on passait le sac. On a tout vu. Alors, je laisse ça entre les mains du Seigneur, je ne vais pas dogmatiser là-dessus. Vous devez avoir affaire avec le Seigneur en toutes choses. Et voyez-vous, dans la libéralité, il y a l'offrande pour le service de Dieu, pour la maison de Dieu, il y a des besoins, il y a des collectes spéciales qui sont faites, et bien ayez affaire avec le Seigneur et qu'il vous montre ce que vous devez donner. Je vois très souvent des personnes qui peuvent dire « Le Seigneur m'a mis au cœur votre ministère à un tel moment » et ça arrive au moment précis où le besoin se fait sentir. Ben, je ne sais pas si c'est la dîme que ces personnes donnent, mais en tout cas, c'est une réponse qui est certaine et véritable, sans qu'on ait besoin de demander à qui que ce soit. On fait connaître nos besoins au Seigneur. Maintenant, nous avons aussi l'exercice de la libéralité. Il y a des pauvres, il y a des personnes qui sont dans la peine, et peut-être que le Seigneur les met sur notre chemin pour que nous puissions les aider. Là, nous devons avoir aussi du discernement, parce que nous ne devons pas encourager non plus la paresse. Et donner toujours à la même personne, sans qu'elle se rende compte que cette personne doit peut-être travailler, qu'elle n'a pas de maladie ou de choses qui empêche qu'elle vive comme les autres, eh bien là, il nous faut faire attention, il nous faut avoir du discernement. Dans la question de la libéralité, nous devons avoir affaire avec le Seigneur. Maintenant, il y avait une autre question qui a été demandée au sujet du travail, parce que nous avons vu dans ce livre de Néhémie, qui est très très actuel, que Néhémie voudrait que le sabbat soit respecté. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous croyons que, avant même d'avoir donné la loi, il y a eu ce repos de Dieu qui lui-même s'est reposé et nous a fait entrer aussi dans son repos. Et qu'il est juste qu'un jour sur sept, nous puissions prendre du repos. Mais la sanctification du jour du sabbat, que ce soit le sabbat ou que ce soit le dimanche, eh bien, je crois que nous devons la maintenir. C'est pas parce que nous ne sommes plus sous la loi que nous pouvons dire, eh bien, on peut faire ce qu'on veut le dimanche. Ça, je crois que c'est un faux principe et que nous devons retenir l'enseignement qui nous dit que un jour de repos est bon et nécessaire. Maintenant, évidemment, dans le monde, on ne raisonne plus comme cela et on prend justement prétexte qu'on n'est plus sous la loi et on peut faire n'importe quoi le dimanche. Et c'est la sanctification du dimanche qui en souffre. Parce que je crois que c'est juste que nous puissions, dans une journée, la réserver vraiment au Seigneur. Si nous pouvons célébrer le culte, que ce soit le matin ou que ce soit le soir, mais que cette journée soit consacrée au Seigneur et puis que nous continuons, ne serait-ce que pour la vie familiale, pour les enfants, leur donner aussi certains principes, c'est une bonne chose de respecter le repos du dimanche et de ne pas avoir toute espèce de tâches qui, au fond, ne nous sont pas demandées. Mais il y a aussi des exceptions, et le Seigneur nous l'a montré, il a œuvré lui aussi le jour du sabbat. Il nous faut donc réellement avoir affaire avec le Seigneur. C'est de notre relation avec le Seigneur que découlera tout notre comportement dans la vie pratique. J'ai quelquefois eu ce problème de savoir ce que nous devions faire le dimanche, quand par exemple nous allons au camp Mahanaïm pour 3 jours de travaux, et que forcément ça tombe une des journées sur le dimanche, et qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes partis de loin, nous avons fait chacun un trajet, nous avons peu d'heures à consacrer à ce travail, qui est un travail pour qui? Pour le Seigneur. Alors, nous travaillons le samedi, nous travaillons jusqu'au soir, nous avons une réunion le soir, le dimanche matin est consacré au culte, à nous souvenir du Seigneur. Le dimanche soir, nous aurons aussi une étude, mais dans l'après-midi, eh bien, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas œuvrer pour le Seigneur dans des questions pratiques? C'est avec une grande liberté que nous le faisons. Mais ce n'est pas pour dire, bien maintenant, dans n'importe quelle situation, vous allez faire la même chose. Mais je veux être loyal, je veux être droit, et je reconnais que le dimanche après-midi, quand nous sommes là au camp de travail, eh bien, nous poursuivons le travail, mais dans la joie. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Maintenant, mes amis, nous allons conclure au sujet de notre retraite sur les caractères d'un véritable réveil spirituel. Dans cette année 1988, nous avons pu commencer en soulignant que dans tout vrai réveil, eh bien, la croix reprend sa place dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, et aussi dans notre vie ecclésiale, et je dirais même dans notre vie sociale. Il nous faut savoir que la croix a sa place dans notre vie. Quelle est la signification de la croix pour nous? Nous sommes des gens qui vivons parce qu'un autre est mort pour nous. Et c'est ce que nous allons rappeler aujourd'hui à la table du Seigneur. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons été sauvés, non pas par des œuvres que nous avons pu faire, mais par l'unique sacrifice de Jésus-Christ, c'est une fois pour toutes, pour nous racheter de toutes nos fautes et pour nous permettre de mourir en lui, afin que nous en ayons fini avec notre nature corrompue et incurable. Et pour ne pas vivre toujours dans le péché, pour ne pas vivre toujours dans la même faiblesse, il n'y a qu'une solution, c'est d'appliquer vraiment la croix dans nos vies et de reconnaître que non seulement le Christ est mort pour nos péchés, mais que dans sa mort, il a entraîné quoi? Notre mort. Il a entraîné notre mort. Et ce n'est pas une question de sentir la chose, c'est une question de le croire.
quand Jésus est mort, il n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a pris le pécheur dans sa mort. Et quand Dieu a vu son Fils sur la croix, ce n'était plus simplement son Fils, mais nous étions en son Fils. Il était, lui, sans péché, mais il avait pris nos péchés sur lui. En lui, il n'y avait pas de péché, mais sur lui, nous nous trouvions. Et Dieu a détourné sa face. De sorte qu'il ne peut plus détourner sa face de nous. Parce que maintenant, nous sommes morts, nous avons été ensevelis, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, et aux yeux de Dieu, nous avons cessé d'exister en tant que pécheurs, en tant qu'hommes perdus. Cela est terminé, Dieu ne nous voit plus pécheurs, il nous voit dans les perfections de son Fils ressuscité. De sorte que nous devons croire cela. Votre vie réelle, votre vraie vie, c'est pas celle que vous considérez quand vous vous regardez, c'est celle que vous pouvez contempler dans le Christ. Dieu ne vous voit que dans les perfections de son Fils. Et c'est quand vous regardez le Christ que vous êtes transformé à son image et à sa ressemblance. Donc vous vous regardez vous-même pour voir si vous avez fait des progrès, eh bien vous êtes découragé et vous êtes triste et vous n'avez pas de témoignage. Votre témoignage n'est pas rayonnant et le monde n'est pas attiré par votre vie. Si vous regardez le Seigneur, quand on regarde vers lui, on est rayonnant de joie. Et cela, c'est l'activité de la foi, et ça se fait par la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est libre en nous, il détourne nos yeux de nous-mêmes, et il les fixe éperdument sur le Seigneur. Et c'est lui que je veux regarder, c'est sa parole que je veux croire, et non pas mes sentiments, ce que j'éprouve en moi-même. Je suis misérable, ça je le sais, mais ce n'est plus cela qui me préoccupe, c'est la vie du Seigneur qui est parfaite et qui a pleinement satisfait le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il a été pleinement satisfait par la vie de son Fils. Et cette vie, Jésus l'a vécue pour nous. Elle est notre vie. En dehors de Jésus, je n'ai pas de vie. Alors, il est ma vie. C'est ce que Paul nous dit, Christ est ma vie. Mais alors, la croix reste au centre, parce que la croix, c'est notre instrument, l'instrument de mort. Considérez-vous comme mort. Considérez-vous comme crucifié avec Christ. Et non seulement comme crucifié, mais comme enseveli avec le Christ. Puis, nous avons vu que maintenant, dans le deuxième volet, nous faisons partie du corps de Christ. Nous sommes les pierres d'un édifice nouveau et nous appartenons les uns aux autres. Nous sommes devenus enfants de Dieu et les uns pour les autres, nous sommes des frères et des sœurs. Et maintenant, dans notre dernier volet, nous avons vu ce que nous pouvions apprendre au sujet des murailles. Et je veux être extrêmement bref. Je veux croire que Dieu vous a donné la même vision que Néhémie a eue. Quand il est monté à Jérusalem, il a vu dans la nuit la ville en ruine. Et quand nous regardons la chrétienté aujourd'hui, nous devons constater aussi que tout est en ruine. Les murailles n'existent pas, pour ainsi dire. Et alors, si l'Esprit de Dieu opère pour nous, eh bien, l'Esprit de Dieu nous amènera, non pas à construire des murailles n'importe où,
mais là où elles doivent être. Et c'est une protection contre le monde et les choses du monde et contre les ennemis qui voudraient ruiner notre communion, nous troubler et nous apporter vraiment les déceptions et les larmes. Nous voulons comprendre que les murailles, dans tous les groupes que nous voyons dans la chrétienté, nous ne devons pas faire une enceinte autour de notre groupe, de notre milieu, mais dresser la muraille face au monde et non pas face à nos frères. J'espère que vous avez bien saisi cela, que nous avons tous saisi cela. Ne faisons pas des petites tours d'ivoire dans lesquelles nous nous cloîtrons et nous n'avons plus de contact avec les autres. Chacun de nous, nous devons bâtir la muraille face au monde. Reprenez le chapitre 12 des Romains et vous comprendrez cela. Nous n'avons pas à nous conformer au présent siècle. Nous ne devons pas bâtir des murailles entre chrétiens, entre les milieux religieux. Ce n'est pas le contact avec les hommes qui nous souille, c'est de garder du péché dans notre cœur. Alors, je laisse au Seigneur le soin de vous montrer quelles doivent être nos relations les uns avec les autres. Le malheur aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus de contact avec certains frères, certaines sœurs. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et quand nous les rencontrons, c'est pas leur étiquette religieuse ou l'étiquette du groupe qui va nous influencer, c'est la capacité de pouvoir parler avec eux de la personne de Jésus-Christ. Pas des doctrines particulières, mais de la personne de Jésus-Christ. Je ne veux connaître avec mes frères que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et les vérités particulières, je les trouve dans le Christ. Mais je n'isolerai pas une vérité. Je la trouve dans la personne de Christ. Parce que dès que vous isolez une vérité, eh bien, nous devenons sectaires. Eh bien, que le Seigneur nous garde de tout esprit sectaire et qu'il nous sanctifie. Amen.
Amen. par ton esprit la liberté à tous ceux qui ont quelque chose à partager dans cette œuvre et que réellement nos âmes puissent être édifiées par ce que nous pourrons entendre. Nous te remercions parce que si tu nous as donné une bénédiction, nous pouvons en faire part aux autres. Que tu nous conduises et que réellement cette journée se termine dans la louange et dans l'honneur de Jésus-Christ qui nous a tellement aimés et qui est au milieu de nous. Amen.
Amen.
Jacob mourant dans l'adoration. Mourir dans l'adoration, c'est beau. Ramener sa vie dans l'adoration. Et il parle de son Joseph, qu'il a retrouvé, de ce Joseph qui va discerner les yeux. Et que dit-il de lui, au verset 22e, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Et c'est bon, mes amis. Nous allons nous quitter, mais nous restons près d'une source. Quand nous avons lu le psaume 87, vous vous souvenez de du dernier verset, toutes mes sources sont en toi. En chantant et en dansant, nous dirons, toutes mes sources sont en toi. Oh, si vous pouvez garder cette assurance. Toutes vos sources dans la personne du Seigneur. Votre source de joie, votre source de paix, votre source d'amour et d'espérance, votre source de foi constamment renouvelée. Un rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Et les branches s'élèvent au-dessus de quoi? De la muraille. Ni les fausses murailles. Que les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Nous ne voulons connaître qu'une muraille, celle qui nous garde bon. Mais en dehors de cela, les branches passent au-dessus de la muraille pour apporter le fruit dont on a besoin tant d'âme. Eh bien, que ces paroles nous restent et que nous puissions nous souvenir aussi du psaume 18e qui nous dit encore avec mon Dieu, je saute une muraille. Verset 30e. Avec toi, je me précipite sur une coupe en arme. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Et que maintenant, le Seigneur nous prépare pour ce repas. C'est lui-même qui, dans la nuit où il s'est livré, a exprimé ce désir, fait ceci en mémoire de lui. Et nous devons avoir les yeux fixés uniquement sur le Seigneur. Nos oreilles écoutant ces paroles, lui disait, à ceci, tous connaîtront que vous êtes les disciples, si vous avez de l'amour en Dieu. Nous voulons vraiment demander à Dieu que, pour le reste de notre vie, nous soyons de ces âmes qui aiment leur Père de l'amour de leur Père, que notre Père du ciel, dont nous voulons sanctifier le nom, notre Père victude, nous attendons le règne universel qui va délivrer ce monde du joug de la corruption, cette création qui est en train. Oh, nous attendons son règne. Nous attendons son règne, ce que nous désirons, c'est que sa volonté soit faite sur la terre, comme elle se fait par les anges dans le ciel. Et notre Dieu trouve en nous un Père, l'être, un peuple prêt à faire sa volonté et à aller jusqu'au bout dans l'obéissance, sachant que c'est le seul chemin de la bénédiction. Que nous soyons aussi délivrés de tout nos soucis matériels. Car notre pain quotidien, il va nous donner. Il va nous l'assurer. Le Dieu qui a nourri Israël au désert pendant 40 ans, le Dieu qui l'a abreuvé, nous l'avons vu, il est le même. Et c'est ça qu'ils vont croire. Il n'y a pas changé. En 1988, nous avons le même Seigneur, qui a les mêmes ressources, les mêmes possibilités. Le ruisseau de Dieu, il est plein d'eau. Nous dit le psaume 65. Et de ce fleuve plein d'eau, où il y a pour chacun de nous un ruisseau, il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, les sanctuaires de la demeure du Très-Haut. Et chacun de nous, vous avez un ruisseau. Et vous avez aussi cette source. Et nous voulons demeurer dans cette certitude qu'il nous apprend. Et quand nous sommes abreuvés par lui, nous connaissons aussi le pardon. Et nous voulons vivre cet après-midi et dans les jours qui viennent de ce pardon de Dieu. Nous voulons jouir. Vous êtes pardonnés. Bienheureux, pardonnés. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes sûr de son pardon? Tout est accompli avec Jésus. Alors, nous n'allons pas le démentir. Il a tout accompli et nous sommes pardonnés. Soyez libérés, déliés, pardonnés. Bien heureux, pardonnés, je bénis et j'adore. Parce que quand on est pardonné, on a vraiment l'adoration du cœur. C'est tellement beau. Souvenez-vous de l'enfant prodigue qui a été sur la poitrine de son père, le père qu'il a retrouvé vivant. Alors, toutefois, il espérait qu'il mourrait pour avoir l'héritage. Maintenant, c'est lui qui est dans ses bras. Son père est mort. Et lui qui était mort est revenu à la vie. Nous sommes vivants maintenant pour qui? Pour Dieu. Et nous sommes vivants pour qui? Pour le Père. Pour le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons des vivants sur cette terre et non pas des morts dans le cimetière. Nous sommes vivants pour Dieu. Morts pour le monde, mais vivants pour Dieu. Et que ce soit là notre commune dans le pardon que nous pouvons. Quand nous avons reçu du Dieu, il nous est facile maintenant de pardonner à nos frères. Et si vous voulez des exaucements prières, eh bien, pardonnez. Si vous n'avez pas pardonné, vous êtes bloqué dans la prière. Mais si vous pouvez pardonner, même à ceux qui vous ont fait du tort, le Seigneur va vous aider. Souvent, nos prières n'ont pas été exaucées parce que nous n'avions pas pardonné. Eh bien, si en ce moment
vous vous souvenez peut-être d'une offense de l'un ou de l'autre, et vous n'avez pas encore le pardon dans votre cœur, dit le Seigneur, de vous donner ce pardon. Et vous verrez tout ce développera pour vous, et ce sera chemin de joie et de lumière. Et vous pourrez aider ce Dieu en sachant que Dieu ne vous induira pas dans la tentation, mais qu'il vous délivrera du mal. De cela, nous en sommes certains. C'est la prière que le Seigneur nous a enseignée et qui devrait être le modèle de toutes nos prières. Je voudrais que maintenant, deux de nos frères prient pour la célébration du repas du Seigneur. Que vous ne croyez pas, et c'est toujours moi qui dois faire cela, je ne suis pas clérical, j'ai essayé d'enseigner certaines choses, et tout ce que j'ai dit, c'est de pouvoir me retirer, c'est de pouvoir me supprimer. Nous devons agir dans un ministère d'enseignement, mais toujours en vue de disparaître, pour que les autres puissent prendre la relève. Alors, nous voulons rappeler simplement que ce que nous célébrons maintenant, c'est l'unique sacrifice de Jésus-Christ. C'est une fois pour toutes, nous le commémorons. Nous nous rappelons que pour que nous soyons rachetés, il a fallu que le Seigneur donne sa vie. Et ce n'est pas sa mort que nous avons le salut. C'est par sa mort que nous avons non seulement le pardon de nos péchés, mais la délivrance de la puissance du péché. Et c'est en vertu de sa mort qu'un jour nous serons délivrés de la présence même du péché, et que nous serons avec lui dans la gloire. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors nous nous souvenons des souffrances du Seigneur. Nous nous souvenons qu'il nous a aimés jusqu'à la mort. Et puisque maintenant nous sommes des rachetés, eh bien nous n'avons pas à ce repas. C'est le repas du Seigneur de Christ. Qui peut prendre part à ce repas du Seigneur, ceux qui sont au lieu. Alors il est bien clair que personne qui ne prend le Seigneur ne s'approchera de la table, ou plus exactement, puisqu'aujourd'hui nous sommes très nombreux, nous ne nous avancerons pas, mais nous passerons le pain dans les bancs, dans les chaises, et qui venait vraiment dans cette communion avec le Seigneur, participeront eux-mêmes en prenant le pain et puis en prenant le vin, témoignage qu'ils ont reçu le Christ dans leur vie. Que le Christ ne leur est plus extérieur, mais pas un personnage en dehors d'eux, mais que le Christ est en eux. Et aussi réellement que vous mangez le pain, vous confessez, que vous vous nourrissez de la personne du Seigneur. Ce n'est pas le pain qui devient de la chair, mais c'est l'image et la certitude que réellement le Seigneur s'est donné pour qu'il soit en nous. Et puis nous buvons à la coupe ce vin qui nous rappelle que son sang a été versé, et son sang c'est la vie, et cette vie nous la possédons en nous, et nous en témoignons publiquement dans cette communion. Vous savez que Jésus a institué des signes pour que nous puissions manifester, nous qui sommes plusieurs, que nous sommes un seul corps, comme il y a un seul pain, un seul corps, et que nous avons tous la même vie. Il n'est pas question d'avoir toujours les mêmes vues sur les points ou les autres, on peut avoir peut-être certaines vues qui sont un peu différentes, nous n'avons pas tous le même degré de connaissance, mais ce qui compte, ce ne sont pas nos connaissances. Nous ne sommes pas en communion parce que nous avons les mêmes connaissances. Dans la connaissance, nous devons toujours grandir, mais nous sommes en communion parce que nous avons la même vie. Nous avons la même vie. Ce n'est pas une communion qui repose sur une uniformité de vue ecclésiastique, mais sur une identité de vie. Et quelle est cette vie? C'est la vie de Jésus. Et alors, non seulement nous sommes en communion les uns avec les autres, mais nous embrassons dans nos cœurs tous ceux qui sont au Seigneur. C'est le Seigneur qui me met en communion avec ceux qu'il a rachetés. Alors il n'y a plus de muraille de ce côté-là. Il y a la muraille du côté du monde. Nous sommes séparés, nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas comme le monde. Nous avons une autre espérance, notre patrie est dans les cieux, et nous faisons là une transition en attendant Jésus. Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parce que nous sentons, nous savons, la colère, ça marche sur le monde, mais ce que nous attendons, ce n'est pas la colère, c'est Jésus qui nous délivre de la colère. Alors, nous participons à son corps et à son sang. Que cette communion soit vraiment réelle, que ce ne soit pas un geste machinal, nous mangeons avec le pain, nous buvons une gorgée, mais que réellement, par cela, ces éléments, nous soyons en communion réelle avec le Seigneur et que nous connaissions aujourd'hui encore un renouvellement spirituel. Je ne demanderai peut-être à Noël et à Josaphat, qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Ô notre Dieu, tous ensemble, oui, nous voulons dire Amen. Et te bénir pour la maison que tu nous as donnée pour nous abriter dans ces journées, te demandant ta bénédiction sur les sœurs qui s'y trouvent, de leur donner selon ton cœur et selon leurs besoins, et de nous accompagner maintenant dans nos demeures, nous préservant de tout mal, étant sur notre droite et notre gauche, devant nous et derrière nous, que tu nous donnes d'être conscients que nous sommes couverts de l'ombre de ta main, et qu'au-dessous de nous sont les bras de Dieu. Et qu'ainsi, dans la sécurité, en toi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre bien-aimé, nous puissions retrouver ce que nous avons peut-être quitté et que nous soyons en bénédiction à toutes les âmes que nous rencontrerons pour la gloire de Jésus qui vient bientôt et que nous appelons de nos voeux avec toute l'Église universelle, disant Amen. Bien, Seigneur. Amen. Seigneur, on veut te remercier.